c'est une éclosion, encore un oisillon. Chacun sa route, nouvelle émission estivale prend son envol et je suis assez touchée de vous la présenter. J'espère que vous allez vous l'approprier, continuer de l'inventer avec moi, avec nous et vous y attacher. Chacun sa route prendra quotidiennement deux chemins différents, mais quoi qu'il arrive, on part en voyage. Un voyage protéiforme qui changera chaque jour d'apparence. On se transforme, on évolue, on avance. Rappelez-vous, on n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Paraît-il même que l'on se repense. 14h-15h, aujourd'hui, c'est la chanteuse Suzanne qui nous hisse sur son dos. Ses concerts à l'étranger, son rapport au mouvement, le fait de voyager virtuellement, son cheminement jusqu'à nous. Mais avant le cheminement individuel, le cheminement collectif, dans cette première demi-heure, nous prenons le pouls de notre planète, avec de l'écologie, des sciences et mille questionnements. Aujourd'hui, on s'intéresse à la pollution de l'air, celle-là même qui fait partir les citadins vers des espaces plus respirables, avec Karine Léger, la directrice d'Air Paris, et avec vous, vos questions d'ores et déjà au 01 45 24 7000. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier et à la technique, portée par Pierre-Yves de Rolin.
Chacun sa route. Élodie Font sur France Inter.
Respire.
L'atmosphère des grandes villes est chaque année un peu plus polluée.
Sounds like you got a nasty cough.
Yeah, no shit.
Les gaz d'échappement des voitures,
forte chaleur,
le chauffage,
absence de vent,
tous sont responsables d'une pollution atmosphérique qui tue.
La pollution de l'air nous rend-elle moins intelligents?
Peut-être que c'est super dangereux de respirer l'oxygène.
Ça va de pire en pire. Titre les journaux.
Et surtout, on tousse dans son coude. Bonjour Karine Léger.
Bonjour.
Vous dirigez Air Paris, une association indépendante qui observe et analyse la qualité de l'air. Chaque jour, sur votre site, on peut surveiller la pollution de l'air de la région parisienne. Et chaque région a une sorte d'homologue d'Air Paris. La même vocation, par exemple, pour Airbraze en Bretagne, Atmo Picardie, Atmosphère Bourgogne. Il y en a beaucoup comme ça.
Il y en a 18.
18, exactement. Qu'est-ce qui pollue le plus l'air d'une ville, Karine Léger?
Alors la première source de pollution dans une ville, c'est le trafic routier. C'est vraiment la première source de polluants comme les oxydes d'azote, les particules aussi. Ensuite, on a le chauffage. C'est vrai que sur une ville de plusieurs millions d'habitants comme l'agglomération parisienne, il y a aussi du chauffage. Et puis ensuite, en fonction des villes, il peut aussi y avoir des composantes un peu différentes. On a, en Île-de-France, on a aussi une zone agricole qui est relativement conséquente, qu'on a tendance à oublier. On a aussi un peu d'industrie.
Oui, à 20-30 km finalement,
voilà, c'est ça qui est assez proche. On a aussi un peu d'industrie, même si d'autres régions en France sont beaucoup plus industrielles. Mais dans les villes, la première problématique, c'est vraiment le trafic.
Et le chauffage aussi, en hiver par exemple, ça change quelque chose?
Oui, le chauffage, et notamment pour faire le lien avec le changement climatique, puisque pollution de l'air et changement climatique sont étroitement liés, le chauffage au bois est mis en avant pour le changement climatique, mais pose des problèmes par rapport à la pollution de l'air. Et on le voit très bien. Je peux vous donner juste un exemple. Le 31 décembre, donc pratiquement pas de trafic, période de grève, et on a fait un épisode de pollution. Et cet épisode de pollution, on est capable de mesurer et de montrer qu'il était lié au chauffage au bois, au petit feu de cheminée avec un foyer ouvert pour le nouvel an. Et on le voit très bien à la fois dans les niveaux, mais aussi en analysant la composition de ces particules.
On voit aussi quand les gens font des barbecues ou non? Pas à ce point quand même.
Non, pas les barbecues. En revanche, la pollution au chauffage cheminée et foyer ouvert, on le voit très bien.
On le voit très bien. Vous parliez tout à l'heure des oxydes d'azote. Quels sont ceux qui sont les plus néfastes pour nous dans les polluants atmosphériques que vous contrôlez?
La difficulté, c'est qu'en fait, on respire un cocktail. Les polluants n'agissent pas tous de la même manière. On a fait un épisode de pollution la semaine dernière à l'ozone, qui est un polluant, qui est un oxydant. On l'utilise par exemple pour désinfecter les piscines. Donc l'ozone est oxydant. Certains polluants sont cancérigènes, le benzène, certaines particules, et vont agir en l'espace de quelques années. Et d'autres agissent au niveau du système cardiovasculaire et respiratoire. Donc chaque polluant, en fait, a un mode d'action. Et c'est pour ça qu'ils sont réglementés par rapport à leur effet sur la santé. Leur effet dans l'environnement.
Et c'est le cocktail en fait qui peut être très dangereux pour nous.
Alors c'est les polluants séparément plus le cocktail, puisqu'en fait on choisit pas de respirer soit des particules soit des oxydes d'azote, on respire ce mélange.
On en a beaucoup parlé au moment du Covid, le fait que l'air que nous respirions était d'un coup moins pollué, entre 20 et 35% de pollution en moins dans l'air selon les semaines, je parle de la région parisienne, et jusqu'à 50% en moins près des axes routiers. Est-ce que cela peut avoir des conséquences à moyen terme, ou est-ce que tout est déjà reparti de la même manière, Karine Léger?
Alors, Plusieurs choses. D'abord, c'est reparti pratiquement de la même manière. On est pratiquement à 85% des niveaux de pollution que l'on avait avant le confinement le long des axes routiers. Pour certains axes routiers, comme le boulevard périphérique, on est déjà revenu à la normale. En revanche, pour la population, finalement, c'est deux mois de pause avec des niveaux beaucoup moins importants, sachant que la pollution de l'air, l'impact maximum, il est vraiment de ce qu'on respire au quotidien. Mais en moyenne sur l'année, ça sera quand même quelque chose de plutôt favorable, même si on est quand même reparti vers un niveau de pollution équivalent à ce qu'on avait pendant le confinement. On a quand même une baisse très conséquente pendant ces deux mois, et en moyenne sur l'année, par rapport à la pollution chronique que l'on respire, ça sera quand même un bénéfice.
Mais est-ce que l'on peut en sentir, nous, les bénéfices encore pendant quelques semaines ? Si je le dis autrement, est-ce que la pollution qui est actuelle, est-ce que le fait que on est moins pollué les dernières semaines, est-ce que celle-ci là, celle qui est actuelle, elle nous est un peu plus supportable, ou est-ce que ça change rien ?
Je pense que malheureusement, ça change pas grand-chose. Donc, on revient à des niveaux de pollution qui sont pratiquement ceux avant le confinement. La pollution, elle agit d'un point de vue chronique, mais elle agit aussi avec des niveaux qui peuvent être conséquents, notamment en cas d'épisode de pollution. Et la semaine dernière, on avait déjà un épisode de pollution lié à l'ozone.
Je le disais, il y a des gens qui s'en vont des très grandes villes. Pas uniquement pour la question de la pollution, bien sûr, mais en partie, et même en grande partie pour certains, à cause de la pollution. Est-ce que c'est un épiphénomène, puisque je lisais que, selon les Nations Unies, d'ici à 2050, il y aura près de 2 habitants sur 3 sur la planète qui habiteront dans des grandes villes. Donc est-ce que là, on est sur un épiphénomène, ces gens qui partent ?
Je pense qu'on est vraiment à un tournant. Emmanuel Macron disait dans le Times que les gens ne voudraient probablement plus respirer un air pollué. Le fait est qu'on a des niveaux de pollution qui sont pratiquement identiques à ce que l'on mesurait avant le confinement. Néanmoins, on a pris goût, on a vu ce que pouvait être une ville sans pollution. Et quand on parle de pollution de l'air, on parle aussi de pollution sonore. Les deux sont vraiment liés. Et on s'est rendu compte de ce que pouvaient être les villes et comment on pouvait l'impact que ça avait sur notre quotidien.
D'ailleurs, je pense qu'on a lié les deux.
Oui, mais les deux sont vraiment liés de façon importante. Il y a aussi un phénomène très important qui se développe, qui est le télétravail, qui a été mis en avant de manière très importante et qui peut permettre aussi de se déplacer, ou en tout cas de vivre plus loin de son, par rapport à son lieu de travail, et qui va peser très fortement, je pense, aussi dans le choix des gens par rapport à leur domicile. Mais c'est vraiment, on est dans une phase où les choses peuvent basculer dans un sens ou dans un autre, et ça sera intéressant de voir comment ça évolue dans les semaines et dans les mois qui viennent.
Et comment penser une ville moins polluante aujourd'hui ?
C'est une bonne question. Et s'il y avait une solution miracle, je pense que la plupart des villes l'auraient trouvée. C'est vraiment un challenge.
Vous seriez riche.
C'est vraiment un challenge auquel tous les maires des grandes villes sont confrontés. La mairie de Paris, bien évidemment, puisque c'est une ville en plus avec une visibilité et une aura internationale. C'est un enjeu aussi de concurrence entre les villes en termes d'attractivité. On travaille aussi avec Hanoï, on travaille avec Pékin, et chaque ville cherche en fait une solution. La solution, elle est plutôt dans un ensemble de solutions que dans une solution miracle qui n'existe pas. Mais comment articuler au mieux les transports en commun, limiter le trafic, limiter la mobilité, trouver des solutions en fait qui sont aussi dépendantes de chaque ville. À Hanoï, typiquement, les transports se font beaucoup par des deux roues. Et donc, comment est-ce qu'on passe de deux roues motorisées à des deux roues peut-être plutôt électriques, qui sont moins émetteurs, avec aussi un peu de pollution industrielle. À Pékin, il y a énormément de choses qui ont été faites. Il y a toutes les petites industries polluantes qui ont été soit fermées, soit déplacées, avec des normes extrêmement strictes, une police de l'air qui a été mise en place aussi. Des véhicules aussi, un espèce de numéros clausus où vous pouvez très bien avoir une carte grise, mais que le nombre de véhicules autorisés sont tirés à la loterie tous les ans. Donc quelque chose de vraiment très 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 contraignant. Donc chaque ville en fait invente des solutions en fonction de son contexte, en fonction de sa situation, mais toutes les villes sont à la recherche de solutions pour améliorer la qualité de l'air.
Et on se regarde tous les uns les autres en fait.
On se regarde tous les uns les autres, on essaie de voir aussi ce qui marche dans d'autres villes qui pourraient être intéressantes pour l'agglomération parisienne. Tout ce qui est zone de basse émission qui est mise en place à Paris et dans la métropole, ce sont aussi des solutions qui ont été mises en place de longue date, par exemple à Londres, à Berlin. Et donc de voir quel a été l'impact, comment ça fonctionne. Les questions qui se sont posées, notamment d'un point de vue sociétal, se sont aussi posées là-bas. Et il y a vraiment des échanges au niveau des villes qui sont très importants.
Berlin, qui n'a pas du tout le même genre de périphérique que Paris, on fait régulièrement la comparaison entre les deux villes. Il y a souvent des politiques à Paris qui disent, en fait, faudrait fermer le périphérique. Est-ce que vous êtes de cet avis, Karine Léger ?
En fait, la plupart des villes, notamment au niveau européen, sont quand même beaucoup plus petites que Paris et Londres. Paris et Londres sont vraiment des villes qui sont énormes et donc qui sont de ce fait aussi plus compliquées à gérer. La fermeture du le péage, puisqu'en fait ce que vous mentionnez c'est le péage urbain, c'est une solution qui permet de limiter le trafic, mais par rapport au fait si vous payez ou pas. Donc si vous payez et que votre véhicule est polluant, vous pouvez néanmoins rentrer. La solution complémentaire, c'est la zone de basse émission qui est déjà en place, qui interdit à Paris et dans l'agglomération parisienne les véhicules les plus polluants. Mais et dans certains cas, comme à Londres, vous avez les deux. Vous avez à la fois un péage et une zone de basse émission. Mmh. Donc après, c'est un choix économique, un choix sociétal et donc, in fine, un choix politique.
Karine Léger, on va continuer à parler avec vous d'air le plus pur possible, bien sûr, et de ce que l'on peut faire aujourd'hui dans nos quotidiens pour que la pollution diminue, avec vos questions, vous qui nous écoutez, au 01 45 24 7000. Mais avant, je vous présente Emmanuel Vibert. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elodie.
Vous êtes journaliste pour le magazine Oui Demain et vous inaugurez une chronique quotidienne où plusieurs journalistes de différents journaux viendront nous apporter leur expertise sur cette planète qui nous passionne tous.
Manière, moi j'en ai rien à foutre, dans 50 ans je serai plus là, mais vous les enfants, vous allez prendre cher, vous.
Chacun sa route.
Vous allez voir, les écosystèmes vont s'occuper de vous et salement.
Sur France Inter.
Ça tombe très bien, justement, les écosystèmes ont quelque chose à nous dire. Emmanuel Vibert, vous avez choisi de nous parler des droits de la nature.
Oui, Élodie, imaginez une forêt ou même une rivière qui se met à exprimer des revendications, exactement comme dans votre jingle. Elle nous dirait « Non mais attendez les humains, ça suffit maintenant de vous prendre pour les rois du monde, de me polluer, de me piller, j'ai des droits moi autant que vous ». Maintenant, imaginez que cette forêt, que cette rivière aille devant les tribunaux pour réclamer justice. Ça vous paraît dingue, hein ?
Un peu.
Ouais. Eh ben, pourtant, c'est en train d'arriver.
Vous exagérez pas.
Juste sur un petit point. Hein, on décode pas encore exactement le langage des écosystèmes naturels. Enfin, je sais pas vous, mais moi pas trop. Mais ici et là, sur la planète, et pour de bon, des tribunaux, des lois leur accordent une personnalité juridique, exactement comme aux humains ou aux entreprises. Le dernier exemple en date, dans le courant de ce mois de juin, en Colombie, la Cour suprême de justice a déclaré que l'aire protégée qui s'appelle Villa Parque Isla Salamanca était un sujet de droit. En conséquence, la Cour a donné 5 mois à la présidence de la République pour proposer un plan de lutte contre la déforestation et les incendies. Ce sont les deux fléaux qui dégradent la mangrove et la forêt alluviale de ce petit paradis. Donc des atteintes à ses droits. Donner des droits à un glacier, un fleuve, un lac, c'est une révolution conceptuelle. Ça peut paraître absurde à beaucoup, mais songez qu'on a déjà vécu des révolutions conceptuelles similaires. Quand on a donné des droits aux esclaves et aux femmes au XIXe siècle, par exemple, il a fallu du temps pour que ça semble normal au plus grand nombre. Et donner des droits à la nature, c'est le sens de l'histoire. Le droit reflète notre société. Or, on commence à comprendre, et il était grand temps, qu'on doit sortir de l'anthropocentrisme. Que nous, humains, ne sommes pas au-dessus des autres êtres vivants, mais parmi eux, liés à eux. Que si on les détruit, on se détruit nous-mêmes. Or, l'essentiel du droit actuel, il est conçu pour protéger les humains et les entreprises. Qu'importe les conséquences sur l'environnement, faut changer ça.
Donc on en est au début du mouvement.
Oui, et comme dans toute révolution conceptuelle, il y a des pionniers qui courageusement ont ouvert la voie. Alors en Équateur, depuis 2008, la Constitution comporte un nouvel article qui donne à la Pachamama un droit au respect intégral de son existence. La Pachamama, c'est la terre-mère pour les peuples précolombiens. Elle est dans la Constitution équatorienne, c'est pas magnifique ça? Et depuis 2008 dans ce pays, 32 procès ont été menés en son nom et 25 ont été gagnés. Autre exemple passionnant, en Nouvelle-Zélande. En mars 2017, le fleuve Whanganui, qui est le troisième plus grand du pays, obtient des droits. C'est le résultat d'un combat mené par une tribu maori qui considère ce fleuve comme l'un de ses ancêtres.
Et en France, on en est où?
Alors en France, il existe notamment un collectif baptisé le Parlement de la Loire qui réfléchit à la création d'une institution qui représenterait la faune, la flore, les bancs de sable, les flots de ce fleuve. On a aussi chez nous des juristes qui sont à la pointe de ce mouvement des droits de la nature. Il faut citer Valérie Cabanès. Elle plaide notamment depuis des années pour que le concept d'écocide, c'est-à-dire le crime contre l'environnement, soit inscrit dans le droit pénal international. Les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont d'ailleurs suivi ces arguments. En demandant la semaine dernière un référendum sur l'introduction dans la loi française du crime d'écocide. Bon, malheureusement, ça n'a pas convaincu Macron, qui l'a retoqué ce matin. Mais on peut citer encore une autre combattante des droits de la nature, c'est l'avocate Marine Calmé. Elle vient de créer le programme Wild Legal. C'est une école de droit sauvage, si on traduit littéralement, pour former tous les militants qui veulent défendre l'environnement grâce aux droits et donner de l'ampleur à ce mouvement. Bon alors Élodie, vous l'entendez maintenant ? La voix des sources, des océans, des forêts, des fleuves qui disent « nous aussi on a des droits, respectez-les ».
J'entends déjà beaucoup de voix, moi, très régulièrement. Merci Emmanuel Viver du magazine Oui Demain, où on peut retrouver d'ailleurs le portrait de l'avocate Marine Calmé. Karine Léger, ça veut dire que l'air lui aussi pourrait nous poursuivre en justice ?
Tout à fait, et dans la loi, dans le droit français, dans la loi sur l'utilisation rationnelle de l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, il y a un droit, alors pas de l'air proprement dit, mais en tout cas un droit à respirer un air qui ne nuise pas à notre santé.
Vos questions sur la pollution de l'air, 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux de France Inter. Dans quelques minutes, le temps de danser dans Chacun sa route sur le rythme estival de Tekken, morceau signé par le duo Rosalía et Travis Scott.
Cosa de familia no la tienen que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría.
Teque, teque, teque.
Ni un amigo nuevo ni una haría.
Teque.
Ni un amigo nuevo, ni una haría. Sume la cara, gafas no es. Tono dispara, la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita. Tatúa de pie hasta la nuca. Vestía de negro como pica. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita.
Leche con azúcar. Ella tiene medida brazuca. Esa mami.
She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more, I know it's sweet. I like that. I got word that is wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring the hype here. No, you got problems, but it's not fair.
Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
Más te vale no romper la muerta.
Teque, 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 teque.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Chacun sa route.
Respirer de l'oxygène redonne à votre corps force, vitalité, dynamisme, accroît la concentration, la vigilance et la mémoire. Remplissez-vous d'oxygène et boostez votre capital santé.
Sur France Inter.
On respire avec vous, Karine Léger, directrice d'Air Paris, qui est l'invitée de cette première demi-heure de Chacun sa route. Gilles nous appelle de Besançon. Bonjour Gilles.
Non, j'appelle de Lyon, mais ça fait rien.
Ah bah alors on me dit Besançon, c'est Lyon. c'est pas grave.
Non. Deux choses. D'abord, juste au sujet des droits à la nature. Bon, physiquement, intellectuellement, je trouve ça un peu bizarre parce que la nature, contrairement aux esclaves et aux femmes, elle ne demande rien. Et après tout, c'est plutôt que des droits de la nature, moi je préfère compléter les droits de l'homme par des devoirs de l'homme.
Mais sur cette question, bon. Karine Léger ne va pas pouvoir vous répondre. Alors, oui, posez-nous la question.
C'est pas pour ça que j'appelais. C'est juste une parenthèse. Oui, j'appelais parce que j'ai lu et entendu dire plusieurs fois, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, que les nouveaux moteurs diesel émettaient moins de particules que les moteurs à essence. Est-ce que c'est vrai ou faux ?
Que les véhicules diesel émettent moins de particules que...
Les nouveaux véhicules diesel.
Les nouveaux véhicules diesel.
Alors la question sur les diesels, elle est intéressante parce qu'elle rejoint aussi la question du changement climatique. Et pour montrer à quel point ces deux thématiques sont liées, le diesel avait été promu parce qu'il était moins émetteur de gaz à effet de serre, mais il est plus émetteur de particules. Et donc pour lutter contre ces particules, on a mis en place des filtres à particules catalysés. Quand ces filtres sont catalysés, ils émettent du dioxyde d'azote. Donc on a dégradé avec un autre polluant. Néanmoins, ces filtres à particules permettent de filtrer un certain nombre de particules. Et la question qui se pose maintenant, c'est plutôt que les diesels émettraient des particules plus petites. C'est-à-dire que les particules qui sont réglementées, c'est les particules de 2 microns et demi, PM2.5 et PM10. Donc, ils sont plus petits qu'un cheveu ou une bactérie. Et finalement, avec la technologie, on a probablement produit d'autres particules qui sont encore plus petites. Et c'est pour illustrer le fait que finalement, en environnement, rien ne se crée et rien ne se perd, tout se transforme. Et en général, quand d'un point de vue technologique, on essaie de trouver une solution, on déplace souvent le problème.
Est-ce que vous diriez, Karine Léger, que l'air est aujourd'hui un facteur d'inégalité sociale ?
Oui et non. Par rapport à l'eau, finalement, vous pouvez pas choisir l'air que vous respirez. Si l'eau du robinet est pas bonne, vous pouvez acheter de l'eau en bouteille. En revanche, vous pouvez pas choisir la qualité de l'air que vous respirez. À Paris, en Île-de-France, là où on a les niveaux de pollution les plus importants, c'est dans le cœur de l'agglomération parisienne, et donc à Paris, qui n'est pas forcément la zone avec le plus de difficultés d'un point de vue économique. Et c'est aussi le long des grands axes de circulation. Où là, par contre, vous pouvez avoir une population qui vit le long de ces axes, où vous avez un environnement qui est dégradé, avec des niveaux de pollution relativement conséquents, mais aussi du bruit, etc. Donc c'est... Par rapport à d'autres zones, l'Île-de-France finalement est pas très inégalitaire parce que c'est dans Paris, où vous, y compris ici autour de la Maison de la Radio, dans le 8e ou dans le 16e, où vous avez des niveaux de pollution les plus conséquents. Mais par rapport à certains environnements, notamment
dans ce studio, j'espère que ça
le long des grands axes de circulation, le long du boulevard périphérique, où vous avez des populations qui sont plus pauvres aussi, là où vous avez par contre un vrai effet avec plus de pollution, mais aussi plus de bruit et un environnement plus dégradé. La perspective, elle est intéressante aussi d'un point de vue international, parce que dans certains cas, c'est un facteur aussi de différenciation, puisqu'on travaille par exemple à Santiago du Chili ou à Téhéran. Et à Téhéran, la vieille ville est en bas dans la cuvette et les quartiers les plus huppés sont en hauteur, puisque en fait la ville est dans une cuvette avec des montagnes et les quartiers les plus huppés sont en hauteur. Donc ça peut être un facteur de différenciation sociale. Ça dépend vraiment des villes.
Hein. C'est le cas aussi en Bolivie,
ouais.
À La Paz. Emmanuel Vibert de Oui Demain.
Oui, on sait, enfin vous allez me dire si vous confirmez ce chiffre ou pas, qu'il y a 48 000 morts prématurées en France par an à cause de la pollution. C'est plus que le Covid cette année, hein, qui est un peu moins de 30 000 morts. Est-ce qu'on peut pas dire à un moment que notre tolérance face à ce nombre de morts, elle est démesurée et que il faut qu'on tire la sonnette d'alarme comme on l'a fait pour le Covid, puisque ça fait plus de morts?
Alors ça fait plus de morts, mais c'est aussi un facteur aggravant. Et dans les discussions qui ont eu lieu ces dernières semaines, c'était aussi quel est le rôle finalement de la pollution de l'air par rapport au Covid. Comme la pollution de l'air agit aussi au niveau cardiovasculaire et respiratoire, ça veut dire qu'elle rend les gens aussi plus sensibles et plus vulnérables à des épidémies comme le Covid. Il y a des études, notamment une étude, si je ne dis pas de bêtises, de Harvard, qui a mis en évidence que là où l'impact du Covid avait été le plus important, c'est aussi dans les villes où il y avait des niveaux de pollution le plus important. Il y a eu des questions avec des recherches qui sont en cours pour savoir si la pollution de l'air pouvait transférer le Covid ou pas. Et puis aussi, la question de la qualité de l'air, elle se pose en moment du confinement, parce que qui dit confinement dit qualité de l'air intérieur. Comment est-ce qu'on ventile? Est-ce qu'on émet aussi des polluants en air intérieur et on fait de l'air intérieur avec l'air extérieur? Donc l'air, il est omniprésent dans cette réflexion.
Puisque vous parlez d'être à l'intérieur de chez soi, nous sommes en ligne avec Hélène. Bonjour Hélène.
Bonjour mesdames et bonjour à tous les auditeurs de France Inter dont je suis.
Vous avez une question pour Karine Léger?
Oui, j'ai une question qui m'interpelle parce que je pense que beaucoup de gens sont intéressés par ça et je pense aussi que nombre de personnes ne sont pas au courant. On nous invite toujours d'être sur l'Internet. L'Internet le futur, mais c'est un énorme polluant l'Internet. Et on a des data centers Moi, j'habite Paris, donc c'est en dehors de Paris. On en a sur toute la France. Ces data centers sont des ordinateurs sur des kilomètres qui émettent et font un air qui se réchauffe. Donc pour le climat, je pense que c'est
Oui, oui, c'est très énergivore. Très
on voit tout le monde aller sur l'internet parce que tout à l'heure justement vous disiez ah bah oui c'est bien parce qu'avec la période du Covid tout le monde est en télétravail et je peux plus entendre des choses pareilles. Moi franchement ça m'insupporte. Je me dis mais
Hélène, la question que vous vous posez c'est est-ce qu'on déplace le problème
qui pollue l'atmosphère qui aide au changement climatique. En Islande, ils ont des kilomètres de ça, ils vont à la banquise. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus possible de donner la moitié des infos aux gens.
Sur cette question, Hélène ?
Ils sont sur l'Internet et qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire.
Sur cette question, il y a une émission d'hier qui s'appelle « Je reviens du monde d'avant » que je vous invite à écouter. C'était hier sur France Inter. Sur le télétravail, Karine Léger, est-ce que ce n'est pas déplacer le problème ?
Alors, c'est pas que le télétravail, c'est l'utilisation du numérique en règle générale. Et vous avez parfaitement raison, madame. Le numérique représente à l'heure actuelle à peu près 4% de la consommation énergétique au niveau mondial. Et c'est quelque chose qui explose. Donc c'est pas que le télétravail, mais c'est finalement notre consommation et nos comportements par rapport au numérique. Pas que le télétravail, mais c'est une vraie question.
Dont on n'a pas la réponse. Vous qui êtes à Air Paris depuis 2001, est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent quand même ?
Oui, la qualité de l'air s'est améliorée. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, en Île-de-France, la qualité de l'air s'est améliorée. C'est quelque chose de vraiment tendanciel. Ça s'est amélioré avec des réglementations au niveau français, au niveau européen. La France est toujours en contentieux avec la Commission européenne pour non-respect des directives, mais malgré tout, la qualité de l'air s'améliore. La qualité de l'air s'améliore aussi par rapport aux actions qui sont prises localement par les maires des municipalités, par les régions, par les métropoles. Néanmoins, elle est toujours insatisfaisante. Et puis surtout avec l'évolution des technologies, et je reviens à la question du diesel, mais aussi du digital. Finalement, quand on fait évoluer les technologies, on fait évoluer aussi les problématiques. Et on a résolu les problèmes de dioxyde de soufre qui étaient des problèmes industriels. Mais on se pose maintenant la question des particules ultra fines et de nouveaux polluants qui évoluent avec ces technologies.
Et avec les masques que l'on utilise pour le coronavirus, est-ce que finalement ça nous affecte moins, cette pollution de l'air ?
Malheureusement pas, puisque en fait les gaz ne sont pas filtrés, sinon on ne pourrait pas respirer. Donc ça filtre pas les plus grosses particules. Ça filtre les plus grosses particules, mais pas les plus petites, et ça filtre pas les gaz.
Merci Karine Léger d'être venue. Air Paris,
merci à vous.
Vous pouvez aller faire un tour sur leur site. Les infos y sont quotidiennement mises à jour sur la qualité de l'air. Et on le disait tout à l'heure, Air Paris, c'est pour la région Île-de-France. Mais il y a plein d'autres associations qui font la même chose, probablement dans votre région, à vous. Dans un instant, direction Oulan-Bator, la Chine, mais aussi Avignon et une salle de danse. Notre invitée jusqu'à 15h est la chanteuse Suzanne.